Eh bien, voici la troisième et dernière table ronde de cette journée au programme chargé. La littérature au travail. On a pu voir ce matin, grâce à la conséquente et passionnante présentation de Thierry Bestingel, que littérature et travail étaient une longue histoire. Longue histoire donc sur laquelle, grâce à Thierry, je n'ai pas besoin de revenir en introduction. Pour cette rencontre avec Catherine Dufour, Thierry Bestingel et Jacques Jouet, nous allons convoquer poésie, roman et science-fiction. Pour commencer, une question peut-être un peu troll, pourrais-je dire. Quelle est à chacun et chacune d'entre vous ici l'expérience du travail et de quel travail ? Puisqu'on sait tous que la littérature n'est pas un vrai travail. Catherine.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai fait des études de gestion. Après, j'ai fait de la formation à la micro-informatique dans une boîte privée. Hein, tout simplement parce que c'était vraiment les années 90, l'arrivée de la micro-informatique. Donc, mon patron, il a vu passer une jeune et il a dit, elle va y comprendre quelque chose. Et hop, il m'a dit de m'en occuper. Et puis après, je suis allée bosser j'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo. Après, je me suis retrouvée durement au chômage. J'ai repris des études et je suis devenue informaticienne. Et c'est un petit peu logique quand on a fait de la formation à la micro-informatique. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et là, j'ai passé un concours dans la fonction publique et maintenant je fabrique des bibliothèques numériques pour une université. Voilà. Donc j'ai fait des grosses boîtes, des petites boîtes et des moyennes dans le privé. Et puis maintenant je suis dans le public et j'ai aussi connu des périodes de chômage assez pénibles comme l'est toujours le chômage. Voilà. Et la nuit, j'écris.
Et vous, Thierry, donc votre expérience du vrai travail ?
Alors, j'ai travaillé toujours dans l'administration, puisque c'était d'abord La Poste, ensuite les PTT, France Télécom, Orange. Mais avec, même si Orange a bien sûr, enfin France Télécom a changé de statut. Donc, j'ai travaillé pendant mes 40 et quelques années avant de pouvoir légitimement postuler à ma retraite, mais en même temps j'ai eu l'éruption en fait de mon écriture et puis de mes publications alors que je continuais à travailler, si bien qu'à partir de ce moment-là ma vie a changé du tout au tout. Quand j'allais au boulot, on me disait ah ouais, mais t'es pas un vrai travailleur parce que tu t'écris, puis mes copains écrivains disaient ah ouais, mais t'es pas un vrai écrivain puisque tu travailles. Donc voilà, j'ai été en quelque sorte une sorte d'intermittent à la fois d'Orange et puis à la fois d'écriture.
Et vous, Jacques, qu'est-ce que vous...
Eh bien, 10 ans de faux travail dans les années 70 dans l'éducation populaire et depuis 40 ans de vrai travail littéraire, voilà.
Donc poète à temps plein depuis 40 ans.
Poète à temps plein, oui, c'est ça, oui.
Et comment la thématique du travail s'est-elle imposée dans vos écrits ? Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont un travail à côté et qui écrivent par ailleurs. Mais comment ces deux univers se sont-ils spontanément conciliés ?
Moi, j'écris pas que, beaucoup de la science-fiction. En science-fiction française, il n'y a pas beaucoup de femmes, quoi. On doit être trois. Bon, j'ai pas fait exprès, c'était vraiment la niche absolue. Et la science-fiction, c'est du world-building. C'est-à-dire que si vous voulez raconter de la science-fiction, il faut que vous construisiez autour de votre histoire un monde cohérent. Et le world-building, c'est d'abord le travail. Enfin, le travail a quand même une place énorme dans notre vie, puisqu'on vit avec le travail, parfois malgré lui, parfois contre, et parfois sans, on crève, quoi. Donc, vous prenez n'importe quel livre de science-fiction, la première chose abordée, c'est le travail. 1984, dans les 10 premières pages, on sait que Winston, il travaille au ministère de la vérité, où il est chargé de raconter des mensonges. Vous prenez, je cite des œuvres qu'à peu près tout le monde connaît, Le meilleur des mondes. Première chose qu'on fait, c'est que fait l'auteur, c'est du world building. Il explique qu'il y a les alphas, les bêtas, les deltas, et comment ils sont comme ça, et quel travail ils effectuent. Donc on ne peut pas écrire de la science-fiction sans mettre le travail au cœur de son écriture.
Et vous, Jacques, parce que la question de la poésie, comment, pourquoi faire pratiquer une certaine poésie autour du travail?
Bah, je crois que j'ai appris à vivre en travaillant dans l'éducation populaire pendant 10 ans, quand j'avais 25, entre 20 et 30 ans à peu près. Et quand j'ai décidé d'arrêter ce métier que j'aimais bien, mais que je voulais pas poursuivre plus longtemps, pour écrire, je voulais pas que ça représente pour moi une entrée genre dans une quelconque solitude. Je sais pas ce que mes amis ou mes ennemis me montraient un petit peu comme un destin. Vous voyez, plus tu en baves tout seul dans ton coin dans ce métier, et mieux ce sera, mieux tu travailleras. Donc moi, j'avais pas du tout envie d'entrer là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'imaginer des manières d'écrire qui ne seraient pas uniquement enfermées dans le triangle mon bureau, l'éditeur, la librairie ou la presse. Vous voyez, je me suis dit, il y a sans doute d'autres moyens de pratiquer ça. Alors voilà, j'ai commencé à envoyer des poèmes par la poste, par exemple. J'ai commencé à faire des portraits, des poèmes portraits de gens que je rencontrais. Et puis, faisant des poèmes portraits de gens individuellement, après, je me suis dit, il faut que je fasse des groupes. Et puis, ben voilà, pour faire des groupes, à ce moment-là, je connaissais déjà Travail et Culture depuis déjà un petit moment. Et je leur ai dit, vous allez me trouver des groupes, n'est-ce pas, les amis de Travail et Culture? Et bien entendu, les groupes qui m'ont trouvé étaient des groupes de gens au travail. Logique. Voilà. Et j'étais bien content à ce moment-là de faire des campagnes de rencontres avec des gens sur leur lieu de travail pour composer des poèmes.
Oui, voilà. Vous êtes un peu sorti, c'est par un cheminement particulier que vous êtes arrivé là, quoi, sans préméditation, si on peut dire.
Il y avait quand même une préméditation, au sens où j'avais envie que la poésie parle du monde. Et parler du monde, c'est en parler un peu concrètement, donc par des rencontres réelles, voilà, bouffer du réel, comme disait je ne sais plus qui.
Et vous, Thierry, avec le côté orange?
Bon, en fait, le travail... pris un peu par mon début de passion d'écriture, on va dire, je ne savais pas trop où me tourner, donc c'était l'époque d'apostrophe, de choses comme ça, donc je regardais les choses qui sont très évidentes en me disant, j'écrirais bien un bouquin, mais quoi, je ne sais pas, peut-être une histoire d'amour, un truc comme ça, enfin, vous voyez, ce genre de choses, les préoccupations qu'on peut avoir à ce moment-là. Et bon, j'avais quand même des scènes lecture, c'était plutôt le nouveau roman, Claude Simon, Marguerite Duras, bon, il y a pire quand même, c'est vrai. Donc finalement voilà, mais je savais pas trop comment me tourner. Puis il se trouve qu'à un moment donné, bon, je travaillais à France Télécom, c'était le début d'Internet. D'un côté, il y avait aussi François Bon, qui venait aussi évidemment d'être complètement précurseur avec Internet. François Bon, dont on a lu Sortie d'usine, et on avait commencé à échanger quelques mails comme ça. Puis un jour, je lui envoie une petite anecdote qui avait eu lieu dans mon travail. J'étais à cette époque-là responsable d'une équipe d'une quarantaine de techniciens. Et on avait eu un dépannage un peu compliqué. Je lui raconte en quelques lignes. Puis il me répond laconiquement, t'as plus qu'à en faire 150 pages. Alors là, pour moi, grand choc, mais c'est tout ce qu'il avait mis. Hein. Pas de formule de politesse, rien. T'as plus qu'à... Bon, très bien. Mais ça m'est resté, ça, parce que je me suis dit, mais ça voudrait dire qu'on pourrait écrire sur un sujet aussi banal comme ça. Et en fait, j'en ai fait 250 pages. C'est devenu central, effectivement. Et en même temps, en l'écrivant, je me suis dit, mais attends, ce que tu es en train de raconter, il n'y a que toi qui le connais. Il n'y a que toi qui peux en parler. Puis en même temps, ce que tu développes derrière, ce sont des sentiments, mais il n'y a pas que de l'ennui, il n'y a pas que de la souffrance. Il y a des vraies interrogations sur le sens de la vie, sur le sens du travail, sur l'amour, sur l'amitié, sur tout un tas d'émotions. Notre travail est beaucoup plus complexe. Il est beaucoup plus chargé d'émotions qu'on peut l'imaginer. Donc à partir de là, je me suis dit, mais c'est un vrai sujet, un sujet à part entière. Voilà.
En parlant de sujet à part entière, Catherine, on parle là du travail, mais vous avez, comme vous l'avez dit, des sujets d'écriture assez variés. Vous avez notamment écrit un guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir des princesses. même si on est toujours dans le, un peu dans le domaine du travail, comment avez-vous eu envie de questionner en fait le rapport au genre et au travail, donc à une certaine forme de déterminisme aussi, qu'on retrouve dans la nouvelle qui a été, dont on a découvert un extrait tout à l'heure.
Alors en fait, c'est le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse.
Oui, c'est mieux finir.
C'est simplement parce que j'avais des enfants petits à l'époque. Là, je vous parle de 2013-2014. Et je, voilà, pour les cadeaux de Noël, je vais chez Carrefour pour pas le citer et je prends le catalogue de jouets. Donc vous avez les pages bleues pour les garçons. Donc c'est des motos, des autos, des choses comme ça. Donc pour fuir, pour se promener, pour découvrir le monde. Et puis des boîtes de petits chibistes amusants, etc. Du technique. Et plus toutes les armes. Et les petites filles, c'est simple. Vous avez des poupées qui marchent, qui parlent, qui font pipi, qui font caca, qui font leurs dents. Ça, j'ai découvert. Vous avez des belles robes de princesse. Hein, et puis, vous avez des fers à repasser. Des fers à repasser, il y a même des roulottes, des petits chariots entiers. Vous avez la serpillière, le balai, la pelle. Enfin, c'est très, très complet. Donc, en gros, petits garçons, ils peuvent prendre les moyens de locomotion qu'ils veulent pour aller faire un peu le métier technique qu'ils veulent. Les petites filles, elles ont trois choix, femme de ménage, mère, et vous mettez le nom que vous voulez dans le fait de s'habiller de façon sexy pour plaire aux hommes. Bon, princesse.
Ah, vous oubliez femme au foyer aussi quand même.
Voilà, l'ensemble, ça revient un petit peu à ça, quoi. On séduit un homme et puis après on reste dans son foyer. Alors c'est très bien, hein, je veux dire, voilà, moi j'ai rien contre les travailleuses du sexe, avoir des enfants, je trouvais ça formidable, et puis faire le ménage, il faut bien le faire, sinon on sent pas bon. Mais c'est pas les trois seules façons pour une femme de gagner sa vie. Il y en a des beaucoup plus marrantes et il y en a des beaucoup plus lucratives. Or, on manque de rôle modèle, je veux dire, ce que le poster qu'une petite fille peut mettre dans sa chambre, il y a Marie Curie. Bon, c'est... Pas, voilà, alors limite Claudie Aigneret, enfin bon. Et je me suis dit, tout ça manque de rôle modèle. Donc j'ai pris uniquement des métiers rigolos et ou lucratifs. Et j'ai fait des fiches techniques. Déjà, j'ai interviewé une femme qui exerce ce métier aujourd'hui. Et puis après, j'ai mis les pistes pour quelles études on pouvait faire, quel était le salaire moyen, pour donner des rôles modèles aux petites filles. Donc, il y a eu, par exemple, je sais pas, agente secrète. Hein, en fait, ma voisine d'en face était espionne, donc j'ai posé des questions. Et puis, architecte. Alors voilà, ma voisine du dessus était architecte, j'ai posé des questions. Et ça m'a permis aussi d'interviewer des gens comme Claudie Aigneret, comme Francine Leca, comme Hélène MacArthur, comme Ariane Mnouchkine, qui est pas quelqu'un de commode. Je trouve que c'est absolument indispensable de donner des rôles modèles aux petites filles. Alors, je suis vraiment pas la seule. Hein, les culottés de Bagieu. Il y a un livre très bien titulé Le Coq sur les grandes oubliées de l'histoire aussi. Il y a énormément maintenant. Il y a beaucoup comme ça de livres, d'ouvrages, de films, de séries, de BD qui essayent d'expliquer aux petites filles qu'elles peuvent rêver. Mais c'est très difficile, ça, pour si ça vous intéresse, travail, genre, société, comment les filles et les garçons choisissent leur métier. Travail, genre, société, c'est une revue qui est éditée par Madame Marouani. Et donc, elle va interviewer des petits jeunes gens à la sortie du collège ou du lycée à 15 ans. Hein. C'est toujours la même chose. 15 ans, c'est l'âge où on se détermine dans son genre. Donc, c'est l'âge où les filles se maquillent comme des voitures volées. Et c'est l'âge où les garçons essayent d'avoir le plus de poils et de brassés de force possible. Donc, c'est un âge où on va choisir de façon très genrée. Probablement, 10 ans plus tard, on choisirait de façon moins genrée. Alors, quand donc une petite fille qui arrive en disant « Moi, je vais être maître chien », on lui dit... On m'a dit, une petite fille, une jeune fille qui dit ça, et qui dit, on m'a dit, c'est pas un métier pour filles, alors finalement, j'ai fait couture, bon. Et, quand un garçon décide de faire coiffeur, il va se retrouver dans une promo de 99 filles, où il sera le seul garçon, et il est accueilli comme le messie. Quand une fille veut faire génie mécanique, dans la promo de 100, elles sont 2, et dès le premier jour, leurs petits collègues dessinent des zizi sur leur boîte à outils, leur cachent leur boîte à outils, les traitent de tous les noms et leur crachent dessus. Et en général, sur les deux, il y en a une qui craque, et qui va ailleurs. Donc il y a un entre-soi, hein. Les hommes, c'est un peu comme les riches, ils vivent dans un ghetto où il y a que, et dont ils excluent le reste du monde, à savoir les filles. En tout cas, ça se passe comme ça à cet âge-là, ce qui explique qu'il y a toujours un choix extrêmement genré des métiers, et donc on déplore qu'actuellement, les très jeunes filles ne choisissent pas de faire des maths et des sciences. Et moi, j'ai vu dans les années 70, par exemple, les enseignants-chercheurs, il n'y avait pas de femmes, c'est simple. Et dans les années 80-90, on est monté à 20%. Donc on était là, ouais, en 2010, on va arriver à 50%. Pas du tout. À partir des années 2000, il y a un réeffondrement de la mixité professionnelle et on est toujours à 20-25%. Je dirais même qu'on régresse en termes de mixité professionnelle et c'est très désolant et je ne vois pas quoi y faire. Moi, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec ce livre-là.
Est-ce que, Jacques, au niveau de la parole que vous avez recueillie pour créer ces portraits, pareil qu'on a entendu tout à l'heure, cette question du genre se retrouve, par exemple, ou est-ce que c'est propre à certains univers professionnels ?
Oui, ça se retrouve, bien sûr. Par exemple, dans le dernier travail long que j'ai fait avec les salariés de VNF, on a entendu un texte tout à l'heure, hein, des Voies navigables de France, traditionnellement, les métiers des mariniers ou des éclusiers, d'ailleurs, étaient plutôt des métiers masculins. C'est en train de bouger assez légèrement, mais enfin quand même un petit peu. Donc oui, ça se retrouve nécessairement.
Et c'est une question qui était très présente dans la rencontre de ce matin, mais je vais vous la poser aussi, vu que vous avez travaillé à partir de paroles recueillies, d'échanges, etc. Comment s'est passé votre travail par rapport à ça et comment avez-vous retranscrit en poésie, de manière poétique, la parole que vous avez recueillie ?
Alors, très concrètement, il y a une petite différence avec les témoignages que j'ai entendus ce matin, que nous avons entendus ce matin. Moi, je n'enregistre pas, par exemple. Vous voyez. Alors, j'étais ce matin, en entendant les collègues ce matin, je me suis dit, ouais, tiens, oui, les deux là enregistrent. Pourquoi est-ce que moi, je n'enregistre pas ? Quand je suis là, je travaille. Si j'enregistre, j'ai pas le sentiment de travailler. Je veux dire par là que moi j'ai un petit papier devant moi avec un crayon. J'ai envie de montrer que je suis en train de travailler. Et j'ai besoin de ça. Alors je c'est pas du tout une critique pour par rapport à ce qui a été dit ce matin, parce que je comprends très bien notamment ce que disait l'auteur comédien en disant qu'il voulait être dans le rendu de la parole et de la parole directe, et ça je comprends bien que de son point de vue ce soit nécessaire. Pour moi non, j'ai plus envie de commencer à écrire en les écoutant, et j'ai le sentiment que si j'appuie sur un bouton de magnétophone, je commence pas véritablement à écrire en les écoutant. Alors on peut me rétorquer, oui mais tu vas perdre des choses, tu vas oublier des choses, c'est vrai, sans doute. Mais ça ne me convainc pas de recourir au magnétophone. Peut-être une autre... Bon, c'est pas vraiment une différence, mais peut-être que ce que je pourrais ajouter... il faut que, de mon point de vue, il faut qu'après la rencontre, il y ait un poème. Voilà, qu'un poème soit composé, soit écrit, qu'il leur soit présenté aux gens avec qui j'ai discuté. Mais également qu'il soit proposable et lisible à des gens qui n'étaient pas là pendant le rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pour moi une chose très importante. C'est-à-dire qu'il faut que le poème composé, le poème abouti, il marche pour les gens qui en ont fourni la matière, mais aussi pour les gens qui n'ont absolument aucune idée de cette matière. Et moi, j'essaie d'avoir toujours à l'esprit ces deux directions, si vous voulez.
Oui, de vous adresser certes aux personnes qui sont en face de vous, mais ensuite de pouvoir transmettre et partager cette parole.
Oui, et je trouve important que les milieux du travail que j'ai la chance de pouvoir fréquenter dans ce travail-là, ils soient aussi audibles en dehors. Voilà. Par exemple, sur les gens qui travaillent dans les voies navigables de France, bon, bah, c'est un domaine qui est extrêmement peu connu du grand public. Et quand j'en parle à un des amis, il me dit « mais je ne connais pas du tout ça ». Donc bah, voilà, lis ce que j'en rapporte.
Thierry, vous, votre écriture, enfin, c'est peut-être un ressenti personnel, j'ai trouvé qu'elle était aussi proche du roman noir que du roman social. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cet angle? Et est-ce que c'est une volonté chez vous de vraiment amener vos lecteurs et lectrices dans un univers qui, peu comme chez Jacques, ne connaissent pas forcément, où vous montriez les trajectoires et les rouages d'un univers? Bon, là, il se trouve que c'est Orange, on s'en sert tous plus ou moins. Quel est un peu votre angle d'écriture?
Alors, bon, c'est vrai que les deux romans qui ont été lus, donc Retour aux mots sauvages et Dernier travail, on parle d'une époque qui n'est pas très très glorieuse d'Orange, donc on est plus évidemment dans quelque chose qui est assez, assez noir. En plus, on est sur la forme du roman. Bon, c'est ma forme de travail à moi. Pourquoi? Parce que, d'abord, pourquoi j'ai écrit plutôt des romans plutôt que des autres choses beaucoup plus didactiques ou des essais, des choses comme ça? Ce que j'aurais pu très bien faire à la suite des suicides, faire plutôt un essai. Bah oui, ça s'est passé comme ci, comme ça. Non, le roman, lui, il va permettre, comme la poésie, d'ailleurs, beaucoup moins fort que la poésie, mais de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, on lit, on voit un personnage, on se dit, tiens, oui, je suis bien intrigué et ça me pose un certain nombre de questions. Moi, je suis pas là, tandis que l'essai, lui, il va répondre aux questions. Sur un sujet comme ça, je pense qu'il n'y avait que le roman qui pouvait donner à voir ce qui s'était vraiment passé, en quelque sorte. Alors que c'est finalement un roman, c'est quelque chose où on fait un pas de côté, en quelque sorte. Donc ça, c'est ma forme de travail, c'est le roman. Alors, le roman noir, oui, effectivement, parce que on est toujours dans une recherche, c'est la recherche de qui c'est qu'a tué, quoi, en gros. C'est à peu près ça, quoi, par exemple. Donc, je comprends bien cette analogie. C'est pas forcément une volonté de ma part, hein. Je suis pas là pour écrire des trucs qui sont franchement plombants ou quoi que ce soit. En plus, moi, c'est toujours assez bizarre parce qu'on me dit, ah oui, c'est quand même dur, oui. Puis moi, en même temps, mon boulot, je le vivais très bien. Et avec mes collègues, voilà, ça se passait très bien, comme tout le monde. Si je demande à chacun, au fait, ça marche ton boulot, t'es bien, t'es heureuse, tout le monde va me dire, bah oui. Parce que, voilà, les moments qui sont tragiques ne sont pas en permanence tragiques. Et puis on passe très facilement d'une situation positive à une situation négative. Donc, mais ça fait partie aussi, justement, de l'appréhension de toute la multiplicité de ce qu'on peut ressentir, des émotions qui nous traversent quand on travaille. Et qui sont intéressantes à pouvoir redonner en tant que romancier ou en tant que poète ou même dans la science-fiction aussi.
Justement, en matière d'émotion, il y a quand même beaucoup d'humour, parfois un petit peu grinçant, parfois un petit peu noir, et de manière très différente dans vos textes respectifs. Est-ce que c'est indissociable pour vous d'une forme d'empathie ou est-ce que c'est fait partie d'une palette d'émotions que vous avez envie de transmettre? Catherine, je vous passe le...
Je ne me suis jamais posé la question. Moi, l'humour est absolument indissociable de mon écriture et c'est aussi indispensable. En fait, j'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans, j'ai toujours écrit, mais je ne voyais vraiment pas l'utilité de me faire publier, parce que quand même, se faire publier, ça veut dire qu'on va... Faut du papier, donc de la pâte à papier. Bref, faut abattre des arbres et faut une bonne raison pour ça. Et quand je rentre dans une librairie, il y a tellement de livres, je me disais, est-ce que vraiment le monde a besoin des miens? Jusqu'à ce que je découvre Terry Pratchett, qui est un auteur humoristique anglais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la lignée de l'humour absurde des Monty Python. C'est voilà. Et cet auteur-là m'a fait rire et je me suis rendu compte ça vaut du Zoloft, Terry Pratchett, hein, il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et je me suis dit, faire rire est effectivement quelque chose pour lequel ça vaut le coup de couper des arbres. Et donc je n'imagine pas sortant un ouvrage qui serait parfaitement sérieux. Alors c'est quelquefois un petit peu grinçant comme humour, parce que je m'adapte à des sujets, il y en a certains qui sont pas très rigolos, mais c'est vrai que pour moi la question ne se pose pas. J'ai le plus parfait respect pour les auteurs qui écrivent sans une trace d'humour, mais je préfère ceux qui en manifestent, même s'ils sont pas du tout reconnus comme des auteurs humoristiques. Des gens comme Marguerite Yourcenar ou Jane Austen, si vous les lisez sans discerner l'humour, c'est parfaitement rasoir. Mais dès que vous discernez l'humour, c'est parfaitement jubilatoire.
Et est-ce que ça permet pas également, spécifiquement dans votre cas, je pense à la nouvelle qu'on a entendu un petit morceau tout à l'heure, de faire passer plus facilement un message assez violent, mais si on le jette pas directement, mais on le détourne.
Oui, ça permet de faire ressortir la violence sociale par l'absurde. Bien sûr, ça a énormément de vertu, l'humour.
Thierry, vous, j'ai souri à la lecture de vos livres. Pareil, il y a de l'humour. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ?
Alors, l'humour, paradoxalement, moi, je l'ai surtout senti. En fait, en ce moment, j'ai un livre qui est adapté au cinéma par Florence Vignon. Alors, Florence Vignon, on l'a évoqué un petit peu ce matin sans le vouloir. On a parlé des films de la trilogie du travail de Stéphane Brisé, et c'est la scénariste de Stéphane Brisé, et là elle a réalisé son premier film avec une adaptation d'Île déserte. Ça devrait sortir sous le titre L'homme debout. Pour l'instant il n'y a pas encore de producteur, ça devrait sortir en 2023, et avec comme acteurs principaux il y a Jacques Gamblin qui joue le rôle du vieux VRP de Mon histoire, et Zita Enro qui joue le rôle de la jeune responsable des ventes chargée de le mettre à la porte. Donc voilà, donc c'est un film que moi j'adore. On dit toujours que les auteurs sont très insatisfaits des réalisations qui sont faites. Moi je suis un ardent défenseur. On se contacte souvent d'ailleurs avec Florence Vignon. On essaie d'avancer ensemble, notamment pour les avant-premières, etc. Donc on espère que les choses vont bouger, puisqu'il y a pour l'instant cette absence de distributeurs. Pour un film qui a déjà été tourné depuis 2020, hein, au pire moment d'ailleurs de la pandémie. C'était assez difficile. Et donc, en fait, je me suis aperçu que dans cette adaptation, il y a beaucoup d'humour. Et j'ai en effet la remarque à Florence, elle m'a dit, mais moi, j'ai rien inventé. Et l'humour, il est dans ton texte. Et effectivement, il y a... Alors, l'humour que je peux avoir dans mes textes, c'est peut-être plus par des questions de... Moi, je travaille beaucoup sur le hasard. J'ai l'impression que les choses se produisent comme ça, par hasard. Et le hasard produit souvent, par inadvertance, beaucoup d'humour, des situations, de l'humour de situation. Donc je pense que c'est ça, quoi, finalement, qui fait que mes textes ont aussi probablement de l'humour. Heureusement, d'ailleurs.
Quand on parle de la question des suicides, etc., c'est bien de rappeler qu'il y a aussi de l'humour. Et j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour chez vous, Jacques, souvent par la parole relatée, la manière... les regards qui sont portés sur des situations.
C'est assez délicat. Il ne faut pas se moquer des gens avec qui on a parlé, vous voyez.
Non, oui, il y a une nuance entre humour et moquerie. Hein.
Oui.
Pour ça, j'ai parlé d'humour.
C'est pour ça que je dis que c'est délicat. L'humour, le rire, c'est magnifique. Enfin, quand on a écrit quelque chose, et que, voilà, qui est lu, il y a des rires, c'est très fort, c'est une émotion d'auteur extrêmement forte, ou d'acteur d'ailleurs. Maintenant, bon, voilà, quand on écrit, quand on prétend faire de l'humour, déjà, je trouve ça presque. C'est déjà se tirer dans le pied de dire je suis un humoriste. Non. Il faut être au moins deux pour que ça marche. Hein. Et ça ne marche pas à tous les coups. Quand, par exemple, j'ai fait une partie d'un roman feuilleton que j'ai fait dans le coin, ici, avec les salariés de Testu, au moment de la fermeture, il y a de ça maintenant presque 20 ans. Alors, dans ce roman feuilleton, il y a quelques caricatures. Il y a Tapie, par exemple, qui passe. Je ne pense pas que Tapie aurait ri à la lecture. Il ne l'a pas lu, mais je ne pense pas qu'il aurait ri. Ce n'était pas fait pour que lui rie. De même, il y a une sorte de caricature du directeur de l'époque qui était suisse et qui avait été envoyé chez Testu par les Suisses pour fermer la boîte, en gros. C'est-à-dire pour pour piquer à la fois les techniques et la clientèle. Bon, je ne pense pas qu'il aurait ri à la, hein, à la lecture de sa caricature. Je veux dire par là que si on veut être drôle, satirique, je sais pas quoi, on choisit d'une certaine façon son public aussi. Et donc on choisit un peu son camp.
Oui, nécessairement. Et vous disiez tout à l'heure, vous aviez écrit notamment sur la question des voies navigables de France, qui est un domaine assez mal connu. Comment est-ce que vous choisissez les lieux, les combats, les personnes sur lesquelles vous allez écrire, avec qui vous allez écrire ?
Moi, je ne choisis pas. Je ne choisis pas. C'est voilà, le Sukrane qui est là, qui est ma patronne dans l'affaire. C'est elle qui choisit les coins de France, qui choisit les groupes, qui choisit les types de métiers, en essayant et en réussissant magnifiquement à faire que pendant 3 ans, on a balayé à la fois la géographie de ce groupe VNF et aussi les métiers. Enfin, vraiment je crois qu'on a vu passer à peu près tous les postes de travail de VNF. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Mais moi, j'y suis pour rien. Je reçois mon billet de train en plus. Vous voyez, c'est vraiment un travail pour moi. Rien à faire de ce côté-là.
C'est pour ça qu'on dit
c'est du billard.
C'est pas forcément un vrai travail d'écrire. On y revient. Est-ce que vous pensez chacun et chacune que la thématique du travail va influer sur votre manière d'écrire ou que la thématique et le style sont un peu distincts ? Vous avez votre style et vous l'appliquez au domaine que vous choisissez. Là, aujourd'hui, on parle de travail. Catherine, vous écrivez sur plusieurs sujets. Est-ce que vous avez un peu un style qui varie en fonction de la thématique que vous abordez ou est-ce que ça reste le même ?
Alors moi, j'ai carrément l'impression, effectivement, d'avoir un style qui varie. Parce qu'à partir du moment où on a une idée, c'est un peu comme une pièce de bois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la sculpture sur bois. C'est pas vous qui choisissez comment il va être travaillé, c'est lui qui vous dit. Il y a des bois plus ou moins durs, il y a des nœuds, on fait pas la même sculpture selon la pièce de bois. Et c'est un petit peu pareil qu'une idée vous tape sur l'épaule. Déjà, c'est pas vous qui la choisissez, hein, c'est celle qui vient vous voir en disant je dois être écrit bien. Donc j'ai moi l'impression d'adapter systématiquement mon style à l'idée. Une idée souvent c'est la confluence d'idées très claires. Je veux écrire sur une jeune fille qui trouve pas de travail et qui va être obligée de se tourner vers les métiers parasexuels. Mais c'est aussi une ambiance, un environnement. C'est la confluence de plusieurs flux, des images, des idées. Et donc j'ai vraiment l'impression d'adapter mon style et de le mettre au service de cette créature qui veut être incarnée dans du papier. Mais les gens qui me lisent me disent pas du tout. Toi, t'as un style qu'on reconnaît. Et d'ailleurs, quand je lis, c'est très gênant parce que j'entends ta voix comme si tu me lisais la nouvelle. Donc j'ai jamais eu l'impression d'avoir un style et il paraît que si. Mais ça vient peut-être du fait, la façon dont moi j'ai appris à écrire, j'ai appris à l'âge de 7 ans. Et puis à 10 ans, j'ai constaté, en relisant ce que j'avais écrit, que c'était vraiment très mauvais. Donc j'ai décidé de lire et d'écrire sans arrêt, comme ça, jusqu'à 20 ans, en attendant que ça soit moins mauvais. La vérité, c'est que c'est à 30 ans, 28 ans, que je me suis rendu compte que j'avais enfin appris le métier. Donc j'ai appris tout ce que j'avais écrit jusque-là, soit 2 sacs poubelles de 50 litres. J'ai tout mis à la poubelle, et là, j'ai pu enfin écrire des choses lisibles. Tout simplement parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé le pompeux, le lyrique, l'incompréhensible, le pédant, le grotesque, etc. Une fois que j'ai fait toutes les bourdes les unes après les autres, et que j'ai décidé de plus les faire, peu qui restait, c'est mon style. Donc c'est une épure que j'ai mis 30 ans à mettre au point. Et c'est pour ça que souvent, moi, je compare vraiment l'écriture à un artisanat. Alors bon, d'accord, il y a Rimbaud qui a commencé à écrire à 12 ans et à 13, il était génial, mais je ne suis pas Arthur Rimbaud. Le plus souvent, c'est beaucoup... Ouais, c'est des années de travail, c'est un artisanat d'écrire.
Qu'en pensez-vous, vous Thierry, est-ce que vous avez eu l'impression que le choix du thème avait influé sur votre manière d'écrire ou pas spécialement?
Alors c'est marrant parce que en fait quand j'ai écrit dernier travail là, c'était on m'a dit ah ça y est tu reviens au thème du travail, comme si à un moment donné je m'en étais éloigné. Moi j'ai pas eu l'impression. J'ai écrit en 2020 un gros pavé qui s'appelait Yougoslave, qui était une saga familiale puisque mon père était yougoslave d'origine. Comme mon père avait 15 ans, enfin c'est une sorte d'agiographie, hein. Mon père se trouvait à Berlin en mai 45 et à 15 ans il faisait vivre sa famille. Il avait juste sa mère et ses trois frères et sa sœur qui étaient beaucoup plus petits. C'est lui qui allait au ravitaillement. Je trouve que comme boulot c'est pas mal. Donc je parlais déjà du travail là, en quelque sorte. Et donc à un moment donné j'ai fait aussi une vie prolongée d'Arthur Rimbaud où j'ai imaginé que Rimbaud allait revivre après coup, mais Rimbaud il voulait plus être poète, donc il fallait qu'il se trouve aussi un moyen de subsistance et un moyen, voilà. Donc j'étais aussi là encore en train de parler du travail, du futur travail de Rimbaud, de sa façon d'exister dans le monde, de réexister. Donc j'ai jamais eu l'impression vraiment de m'éloigner de cette thématique là. Donc ça m'a, alors bon, effectivement le style varie entre moi, j'ai voulu, par exemple, quand j'ai écrit Yougoslave, je l'ai écrit au passé simple, etc., parce que je voulais faire un remake de Guerre et Paix de Tolstoï, et que Guerre et Paix, il faut savoir que c'était le livre qu'adorait mon père. Mon père, qui en était à sa troisième langue apprise, le premier, c'était le serbo-croate, le deuxième, c'était l'allemand, la troisième langue, c'était quand même le français, et arrivé en France, finalement, au bout de quelques années, on lui offre... un anniversaire, le Guerre et Paix en Pléiade, qu'il a avalé et dont il pouvait... Donc voilà, je trouve que... Donc c'est pour ça que c'était un peu ce livre-là que j'aurais voulu, en quelque sorte, pas forcément imiter, mais du moins qui a imprimé le style d'écriture de Yougoslave, qui est un style évidemment beaucoup plus 19e qu'actuellement. Là, effectivement, dernier travail, c'est écrit... au présent probablement, je ne sais plus précisément, mais voilà, je pense que je vais essayer évidemment de le calquer par rapport à l'époque. Donc, mais c'est pas le travail, par contre, il est toujours présent. Je n'ai pas l'impression de m'en éloigner.
Et Jacques, est-ce qu'il y a une poésie du travail ou est-ce qu'il y a la poésie?
Déjà sur le style, moi je crois que pour être disponible. Il ne faut pas avoir un style, il faut utiliser le terme style au pluriel, ce que se faisait tout à l'heure, je crois, Catherine Dufour, et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dans la situation d'enquête, où par exemple je me trouve quand je rencontre des groupes comme ça, il y a quelque chose d'un peu particulier qu'on peut... peut-être dénommer par... On a entendu ça pas mal aujourd'hui, l'esprit documentaire. Alors ça, c'est quelque chose qui va être quand même assez particulier parce que je considère que il y a quelque chose de l'ordre du document qui doit intervenir dans ce type de poème, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres situations d'écriture.
Voilà. Oui, ou même dans d'autres poésies qui sont juste, on peut dire, juste entre guillemets esthétiques. Voilà, là c'est particulier.
Et ça, c'est une sorte de revendication aussi. La poésie documentaire existe.
Et oui, vous considérez que vous vous inscrivez dans cette lignée
Quand je fais ça, oui. Je ne fais pas que ça, mais quand je fais ça, oui. Et ça, ce n'est pas toujours évident, parce que quand j'affirme un portrait comme ce que vous avez entendu tout à l'heure, par exemple, c'est un poème pour moi. Parfois le portraituré ou la portraiturée dit ça n'est pas un poème, monsieur.
Le ou la portraiturée considère qu'il s'agit de quoi justement si c'est pas un poème?
Là il faut discuter plus longuement, mais il y a eu un cas de c'est un garçon qui avait lu le poème portrait et il a dit je veux pas qu'il soit publié parce que ce n'est pas un poème. Voilà, minoritaire, très minoritaire, hein, mais... Comment ? Non. Ah non. Non, non, là, le droit de veto est tout à fait admissible pour moi.
Catherine, d'un point de vue concret, mais également politique, puisque vous êtes engagée par ailleurs, vous avez co-signé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la lettre de la science-fiction française pour penser et projeter le contrat social de demain. Quel pourrait ou quel est le rôle de la science-fiction dans l'anticipation du travail au futur, dans le meilleur comme pour le pire?
Alors en fait, la science-fiction avait un rôle. La science-fiction, c'est pas, si vous voulez trouver une définition, ça fait un siècle et demi que ceux qui aiment la science-fiction se tapent dessus pour ça. Je pense que c'est un de leurs sports préférés, c'est de se disputer pour avoir une définition de la science-fiction. Donc on va pas essayer là. Moi, je vais juste vous donner la mienne. Donc pour moi, la science-fiction, c'est aller voir ce qui se passe actuellement dans les laboratoires de recherche. Et puis imaginez que le jour où cette découverte-là arrivera dans nos assiettes, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que ça va changer à nos rapports sociaux ? Comme une lanterne magique qu'on projetterait dans le champ social à 20 ou 30 ans. Voilà. Il y a des tas de gens qui vous diront pas du tout, la science-fiction c'est philosophique, et puis, enfin bon, bref. Mais pour moi c'est ça. Et c'est quoi la question ? Excusez-moi.
C'était quel est le rôle, quel pourrait être le rôle ? Puisqu'en plus, on peut constater qu'il y a des livres qui ont été écrits il y a un moment. Et il y a quand même certains traits qu'on retrouve dans la société actuelle.
Oui, alors
est-ce que dans le monde du travail, ça pourrait être un peu la même chose ?
Ouais, donc la science-fiction peut avoir comme ça une espèce d'aura de gourou qui prévoit l'avenir. C'est pas vrai du tout. Il y a quelques livres dont on va se souvenir parce qu'effectivement, ils ont à peu près prédit l'avenir. On oublie les 150 autres de la même époque qui se sont totalement plantés. Et il y a notamment une chose que la science-fiction n'a pas vue une seule seconde, c'est l'avènement du téléphone portable, du smartphone, pas le communicateur, mais cet écran qui nous relie à des gens qui ne sont pas présents dans la même pièce que nous et autour duquel on est replié comme un petit fœtus dans son technococon. Ça, la science-fiction n'a rien vu venir. Donc il y a une partie de la science-fiction qui est comme ça, d'anticipation, dont on peut dire qu'elle essaye de prévoir, et de temps en temps, par hasard, elle tombe juste. Et c'est une partie de la science-fiction qui est souvent très dystopique. Elle est là pour alerter. Elle s'occupe pas des voitures, mais des embouteillages. 1984 est le meilleur des mondes, c'est vraiment ça. Le meilleur des mondes, c'est quand même en 1931, il y a un type qui a écrit sur la bio-ingénierie. À une époque, il n'y avait même pas encore les antibiotiques. Et comme on l'a tous et toutes lu sur des générations, on s'est un peu angoissé en disant, mon Dieu, le jour où la bio-ingénierie, le tripatouillage des gènes et du vivant sera possible, il va peut-être falloir se méfier. Du coup, on a fait voter des lois sur la non-brevetabilité du vivant, etc. En ça, la science-fiction a un caractère vertueux parce qu'elle sert d'alerte. Maintenant, en l'an 2005 ou 2006, on s'est retrouvé à plusieurs auteurs de science-fiction, dont Alain Damasio, Norbert Berjanian, etc., d'autres. Et on s'est dit, mais notre science-fiction, elle donne juste envie de se tirer une balle dans la tête. Elle est très dystopique et en fait elle plonge les gens dans l'angoisse. Donc vous avez un peuple heureux qui jette ses papiers par la fenêtre de sa grosse voiture à pétrole. C'est important de l'alerter que la pollution c'est pas bien et que le pétrole il va y avoir un problème. Maintenant que je pense qu'on est tous bouffis d'angoisse, peut-être plus le moment d'alerter. C'est peut-être le moment d'avoir une science-fiction un peu moins dystopique qui jouerait plutôt un rôle de proposer des pistes. Et parce que finalement, le futur, il est dans notre tête. La totalité de ce qui nous entoure a été avant d'être. Je sais pas, même un fauteuil, il y a part d'arbre à fauteuil. Ici, il y a un fauteuil sur lequel je suis assise, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, mon Dieu, je serais quand même mieux assise sur quelque chose de plat, avec des pieds qui ont la longueur de mon tibia, plutôt que le derrière dans la boue. Donc la totalité de ce qui nous entoure a avant été dans la tête de quelqu'un. Donc si nous, dans notre tête, à l'heure actuelle, on a de notre futur une vision d'accident de voiture, c'est ça qui va advenir. Donc on s'est dit, on va essayer de désincarcérer le futur, et on a créé le groupe Zanzibar. Autant vous dire qu'on n'est pas les seuls, il y a tout un mouvement nommé le Solar Punk, le punk solidaire, qui essaye de trouver des pistes de développement désirables et tenables. De façon concrète, si vous voulez lire un livre très concret là-dessus, il y a Henry Colin Wright qui a écrit Utopie réelle et qui explique comment on peut faire pousser des solutions et solidaires, gratuites, partagées par toutes, collectives, et qui fonctionnent. Genre, l'exemple principe, c'est Wikipédia. Puis si ça marche, on les fait essaimer dans toute la société. Donc Zanzibar fait partie de cette espèce de tentative de cercle vertueux d'une littérature et pas que, qui serait au service d'un mieux-être et d'un mieux-vivre non pas descendant du ciel ou du gouvernement ou de qui que ce soit, mais fait par nous tous ensemble. Voilà. Très modestement, on s'inscrit dans ce courant d'idées-là.
Oui, c'est vrai que ça apporte un petit peu plus d'horizon que, comme vous disiez, les dystopies auxquelles on pense spontanément. Quand on
voilà, tout à fait.
Et développement désirable, est-ce qu'on en voit également dans la littérature dite un peu plus du réel, par opposition, là aussi, bête à la science-fiction, avec notamment cette idée d'implication citoyenne, où de plus en plus de travailleurs, travailleuses, souvent jeunes, ne veulent pas travailler pour des entreprises qui cautionnent pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer, entendre, respectivement
Alors là, il faudrait filer la parole à quelqu'un qui a 30 ans de moins que moi. De toute évidence, les jeunes gens actuellement, moi je les trouve drôlement bien, parce qu'ils ont extrêmement les pieds sur terre, ils sont très concrets, ils sont beaucoup moins dans la rêverie, et effectivement, ils se laissent pas faire. Maintenant, c'est un se laisse pas faire qu'on peut se permettre, je dirais, tant qu'on n'a pas charge d'enfant. Je sais pas ce que ça donnera dans les 10 prochaines années. Est-ce qu'ils vont se retrouver, comme nous, obligés d'accepter des choses difficilement acceptables parce qu'à un moment, il faut manger? Ou est-ce que c'est vraiment une génération qui va faire bouger les choses? J'espère que c'est ce deuxième cas qui va advenir, parce que sinon, c'est le changement climatique qui va nous faire bouger et pas qu'un peu.
Thierry, est-ce que vous avez pu observer ou entendu ce genre de choses?
Alors là, c'est vrai que... Bon, en ce moment, c'est ce que j'ai dit ce matin à la fin de mon intervention, et demain, et là on est vraiment dans le récit du travail un peu qui nous prend de court, puisque tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça a été absolument complètement imprévisible. Les réactions aussi ont été imprévisibles, ou du moins alors on peut les juger, on peut dire c'était bien, c'était pas bien, mais enfin tout le monde a été pris de court, les gouvernements aussi. Et donc, ce qui fait que cette après-pandémie, avec les réactions qui ont été trouvées, notamment dans le domaine du travail, pour rester dans le domaine du travail, avec le télétravail où les gens ont du mal à revenir sur leur lieu de travail, avec les vagues de démissions qui ont eu lieu aux États-Unis, en France aussi, avec ce qu'on nous dit. Alors, du coup, ça devient assez utopique. Alors, est-ce qu'on est dans une période maintenant à nouveau de plein emploi? Mais alors, donc, ça veut dire qu'avant... comme ça, c'est apparu soudainement. On avait un taux de chômage faramineux et d'un coup, là, il faut que tout le monde se retrousse les manches pour aller au boulot. Donc, on ne sait plus trop, en fait, où est la réalité. Et donc, je pense que ça va susciter, évidemment, des récits qui vont venir alimenter ces récits du travail dans les prochaines années. En attendant, on n'en est pas encore là. Et on en est peut-être, justement, à ce rôle... justement un peu comme le dit Jacques, c'est-à-dire de faire parler, de faire exprimer. Alors c'est pas forcément notre rôle, c'est un des rôles des écrivains, ça peut être mais pouvoir susciter la parole, c'est quelque chose d'important. Alors il y a pas que le travail, enfin bon, moi je fais aussi des ateliers d'écriture, il se trouve que j'en ai fait récemment avec des migrants, notamment des migrants, de ce qu'on appelle les migrants MNA, donc les mineurs non accompagnés, qui se trouvent dans des structures associatives le plus souvent, et donc qui débarquent d'Afrique du... Enfin, avec le circuit qu'on connaît, la Libye, le machin, la traversée, etc. Et donc, eux, ils sentent le besoin de pouvoir raconter leur histoire. Donc, l'apport qu'on a, d'abord, ils n'ont pas forcément la même langue que nous. Moi, je me souviens avoir eu un groupe d'Afghanistan qui s'est trouvé complètement isolé à la suite de la pandémie, puisque les associations qui pouvaient leur donner un certain nombre, des notions d'alphabétisation, ne pouvaient pas intervenir. Donc voilà, donc il y a des besoins qui étaient extrêmement criants pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être dites, elles deviennent discibles. Donc qu'on puisse à un moment donné exprimer quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'actuellement l'éducation nationale ait joué ce rôle-là. Donc on est plutôt dans un rôle de normatisation, donc quelque chose où on va travailler avec des outils qui étaient déjà des outils existants. Or, ce qui nous est arrivé là, les vagues d'immigration qu'on connaît, ça se passe en ce moment. La pandémie, ça se passe en ce moment. Donc, il faut trouver des outils et des moyens d'expression qui sont qui à mon avis se réaliseront spontanément, parce que de toute façon le besoin d'être dit et de dire le monde, il est viscéral donc chez l'être humain, donc ça va se dire dans les prochaines années.
Oui, vous pensez que chacun, avec les genres différents que vous pratiquez, de genre littéraire, que la littérature a son rôle à jouer dans l'interprétation des nouveaux modes de travail, des nouvelles façons de le vivre, en prolongement aux nouvelles formes de la société.
Alors, la littérature, mais on l'a vu aussi, donc notamment avec ce que disait Claire Gamazou, c'est-à-dire que maintenant, c'est les nouvelles formes aussi, c'est la littérature, c'est très facile de faire une vidéo, de reprendre un texte et de mettre son propre texte en vidéo. Ça, c'est extrêmement facile. Ça prend 10 secondes, on rajoute une musique de fond, pof, ça y est, c'est fait. Donc, voilà, c'est aussi l'ensemble de toutes ces formes artistiques qui sont, à mon avis, qu'on peut articuler.
Jacques, qu'en pensez-vous par rapport à la poésie, qui en plus connaît un certain renouveau, entre guillemets, puisque pendant longtemps, c'était un petit peu considéré comme désuet, et là, il y a presque une mode.
C'est vrai ?
Oui, autour de la poésie, il y a beaucoup de soirées, de lectures. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un rôle d'anticipation, d'interprétation de...
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Pour ce dont on parlait avant, sur la nouvelle génération au travail. Là, je vais vous donner une impression. Ne prenez pas ça comme autre chose qu'une impression. Dans les gens au travail que nous avons rencontrés à VNF là, depuis 3 ans, il y a des gens très jeunes. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Et l'impression que j'ai, c'est que ils ne sont pas dans l'inquiétude de l'avenir comme leurs aînés. C'est un peu étrange. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. Alors, je me suis demandé pourquoi. Encore une fois, c'est mon impression. Je ne sais pas si Sukrane la partagerait. Je pense qu'ils sont... ils ont avalé la flexibilité très bien. C'est-à-dire que c'est des gens très engagés dans leur travail. Mais ils n'y resteront pas à tout prix. S'il y a un problème de vivre au travail, ils chercheront à en changer. Or, la flexibilité est une valeur du libéralisme. Donc, ils ne sont pas si inquiets que ça. Ils sont beaucoup. Moi, j'ai perçu, me semble-t-il, qu'ils sont moins inquiets que le mec qui a 50 ans et qui est à 10 ans de la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a surpris.
Est-ce que ce serait, d'après vous, là, pour le coup, de manière un peu subjective et par rapport à ce que vous avez pu entendre, parce qu'ils ont intégré ce formatage libéral, ou parce que c'est juste l'époque aussi qui est différente et qu'une jeune génération s'est un peu faite à l'idée qu'on fait plusieurs métiers et qu'on ne fait plus un métier de début jusqu'à la fin
Enfin, moi, les rapports que j'ai avec les jeunes générations, c'est qu'on va tous mourir, ok, on est tous d'accord, mais probablement beaucoup plus vite que prévu. Et surtout, c'est une civilisation qui va mourir, la nôtre. Donc, parce qu'en 2050, on sera soit noyé, soit cuit, probablement les deux, donc bouilli. Et ils ont des angoisses qui sont des angoisses climatiques et certainement pas des angoisses de travail. Enfin, ils ont des angoisses de travail, de trouver quelque chose qui leur plaît et réussir à manger avec. Mais cette préoccupation-là, qui était peut-être centrale dans ma génération, où on était un peu usé par les crises, les vagues de chômage qui se succédaient, eux, ils sont plutôt angoissés par les vagues de chaleur qui se succèdent. Je sens que le clivage se fait davantage là.
C'est ce que vous avez pu constater
Alors, moi, sur les jeunes générations, du moins quand je discute avec eux ou quand je fais les ateliers avec eux, j'ai l'impression qu'ils sont très beaucoup plus sensibles que la génération d'avant aux questions d'éthique, justement. C'est-à-dire, pour moi, dans ce que je mets dans l'éthique, ça va être justement les questions de l'environnement, les questions de l'égalité homme-femme, Et après, voilà, effectivement, c'est-à-dire que ça va être plutôt une intransigeance de ce genre-là. Je veux pas bosser chez Total parce que je suis ça va être de ce genre-là. Ou je veux pas aller dans cette boîte où ils respectent pas l'égalité homme-femme. Donc ça va être plutôt des questions d'intransigeance d'ordre éthique, ce qui n'existait pas du tout au début des années 2000. Voilà, ça on mettait ça de côté. Ouais. On mettait pas ça de côté, mais du moins c'était beaucoup plus caché, beaucoup plus larvé.
Il y en a qui y vont quand même, hein, chez Total.
Alors avant de passer le micro au public, pour savoir s'il y a peut-être des questions, là j'ai une question qui traite un petit peu de ce que l'on connaît. Il y a un vieil adage dans la littérature qui dit qu'on doit parler de ce qu'on connaît. Est-ce que pour vous c'est véridique ou est-ce que c'est un peu limitant? Puisque Thierry, vous parlez dans ce que vous écrivez de ce que vous connaissez. Catherine fait de la science-fiction. Là on a de la poésie aussi. Comment est-ce que ça se passe, ce rapport à la vérité et à ce qu'on connaît?
On parle de ce qu'on découvre.
Ça c'est beau. Thierry?
Oui, c'est peut-être plus ça, parce que en fait, c'est vrai que je parle de ce que je connais, mais quand par exemple j'ai écrit La vie prolongée d'Arthur Rimbaud, je l'ai écrit parce que justement on connaît tout de Rimbaud. On sait quand est-ce qu'il est né, on a son bulletin de décès, on a ses photos, on a tout, tout a été extrêmement archivé. Par contre, il y a un certain nombre de choses comme ça où on peut s'immiscer. Par exemple, Isabelle Rimbaud dit que son frère est mort à 10h du matin. Le rapport montre qu'il est mort à 14h. Ah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 heures? Ah, moi, je m'engouffre dedans, finalement. Donc, c'est à partir de là où finalement, je vais parler de ce que je ne connais pas, mais de ce que je vais essayer. Et je vais bâtir une histoire à partir de là.
Et vous, Catherine?
Oui, on parle toujours que de ce qu'on connaît, et finalement on parle toujours depuis soi, et on donne toujours à voir une bulle dans laquelle on vit. D'ailleurs, c'est l'intérêt de toute forme d'œuvre, de création, mais alors quelle qu'elle soit, c'est tout simplement on donne à voir le monde dans lequel nous personnellement on vit. Et donc chaque œuvre, c'est du voyeurisme, hein, c'est une occasion d'aller voir comment la personne d'à côté organise son monde, quelles couleurs elle voit, quelles sont quelles odeurs et comment ça s'accorde dans son monde. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, par contre, effectivement, quand on choisit un sujet et qu'on se met à le débroussailler, c'est ce qu'on appelle se documenter. Et alors ça, c'est le grand bonheur et c'est aussi le grand écueil de l'écriture. À un moment, il faut sortir de la documentation, il faut arrêter de se documenter, il faut se passer à l'écriture. Et combien d'œuvres magnifiques n'ont jamais vu le jour parce que l'auteur s'est perdu dans la documentation. Une façon de sombrer dans un bain de donner et de ne jamais en ressortir, c'est extrêmement confortable et c'est un sacré piège.
Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou oui.
Ah, merci. Ouais, une réflexion, oui, sur ce qui a été dit là juste sur la fin avec les jeunes et l'avenir. Rappeler quand même que par rapport au monde d'avant, il y a quand même eu un gros changement législatif en 2016, c'est les lois El Khomri. Et on a réécrit le code du travail et on a complètement modifié le cadre social en France. Et donc forcément qu'on n'a plus la même vision aujourd'hui à 25 ans que nos parents ou nos grands-parents à l'époque qui pouvaient rentrer dans une entreprise et puis y faire toute leur carrière, puisque on a une multiplication des contrats précaires et qu'on a tout fait dans cette loi pour faire baisser les conditions sociales de notre jeunesse, et on a eu énormément de mal à l'époque à mobiliser dans les manifestations contre les lois El Khomri. Et derrière, les lois Rebsamen, qui ont, elles, amené les fameuses ordonnances Macron de 2017. Donc tout ça a été préparé par séquence. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, ces faits-là, puisque quand on dit que notre monde petit à petit, change. Enfin, il a changé, et tout ce cadre-là a fait que, par la force des choses, les jeunes d'aujourd'hui ne vivent plus ce que certains d'entre nous ont vécu. Et quel avenir ? Et voilà, ça aussi, donc c'est le lien avec la culture où... je disais ce matin qu'on a comme une fracture culturelle dans le pays quand même, parce que, bon, je ne vais pas vous faire long là-dessus, mais que ce soit à travers les médias, la presse, quand on parle d'auteurs, d'artistes, c'est plus large que ça. C'est aussi, il y a le collègue qui parlait ce matin de la lucarne qui est la télévision. Regardez la télévision il y a 20 ans, on parlait d'Apostrophe ou d'autres émissions culturelles, regardons-la aujourd'hui. C'est pas pour rien que les Bolloré, Pinault et compagnie se sont accaparés les maisons d'édition, les grands groupes de presse. Combien on a de maisons d'édition et de groupes de presse indépendants aujourd'hui, et combien il y en avait il y a 20 ans. Bon, tout ça aussi, c'est des choses qu'il faut, je pense, relayer, conscientiser les salariés, parce que le monde du travail, c'est les travailleurs. Et je pense que les travailleurs, ils ont besoin aussi de... On parlait d'humour juste avant... il faut savoir piquer. Et je pense que la satire, notamment la caricature ou la satire, c'est un bon levier aussi pour faire réfléchir, pour aiguiser l'esprit critique des salariés. Et on en a besoin. Donc, on est preneurs, nous, demain, si on doit relancer des projets avec Travail et Culture, de le travailler sous cet angle-là, parce qu'on est dans une société où tout est aseptisé, où on banalise tout. Et on a besoin aussi de percuter un peu les esprits pour s'indigner, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'indignation. Merci.
Oui, d'ailleurs, votre nouvelle, Catherine, en matière justement de précarité du travail et de, j'espère pour longtemps, une caricature de cette ubérisation de la précarité, etc. Vous pensez que c'est un peu prémonitoire par rapport à ce dont vient de parler monsieur sur les modifications des contrats de travail, etc.
Oui, comme je pense que tout le monde n'a pas lu cette nouvelle, c'est donc, on imagine, d'ici 20 ans, il n'y a plus de CDI depuis très longtemps, et le CDD, c'est vraiment le Saint Graal, et les gens, globalement, ils ont 24 heures de visibilité dans leur travail. Donc, ils doivent tous les jours chercher un travail pour le lendemain tout en faisant leur travail du jour. Donc, effectivement, est-ce que c'est une caricature ou est-ce que c'est une prémonition ? J'en sais rien, j'espère bien que c'est plus une caricature qu'une prémonition. Parce qu'à partir du moment où on vous découpe votre temps comme ça, en petits bouts, et puis après, je ne sais pas si vous avez bien suivi le passage qui a été assez remarquablement lu, d'ailleurs par les deux acteurs et actrices, c'est une jeune fille qui, aujourd'hui, là, à 24 heures, elle a rien. Alors elle sous-loue un peu la surface de son studio, donc quand elle a 10 mètres carrés, puis quand elle a plus assez de sous, elle prête 2 mètres carrés, donc il y a ses parois qui reculent, donc, voilà. Et aussi elle vend des vidéos où elle se filme de là à là, et donc elle a un corps découpé en morceaux et un temps découpé en morceaux, et au bout d'un moment on peut plus se battre quand on tient plus en l'air parce qu'on est tout découpé de partout. C'est ça que je voulais montrer. Et je pense qu'effectivement la satire est une excellente chose. Je m'en réfère à Charlie Hebdo. Vous dites El Khomri, c'est vrai que je repense à la rage absolue qu'a été le vote de ces lois, qui d'ailleurs ont enterré très 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 profond le peu qui restait de la gauche ou se prétendant de gauche. À l'époque, et c'est vrai que c'est une grande honte. Et alors maintenant, on est dans une petite bulle de plein emploi qui va sûrement pas durer, mais enfin, on en profite. Parce que du coup, on a énormément de gens qui cherchent à embaucher et qui trouvent pas, alors qu'avant, ils avaient des travailleurs, jeunes ou moins jeunes, mais qui étaient là, qui étaient assez dévoués à leurs tâches et à leur employeur. Et puis, on les a flanqués dehors en disant on va prendre plus jeunes, moins chers. Et puis, maintenant, on a des employeurs qui pleurent en disant nos employés, ils restent pas, ils sont absolument pas fidèles, et on a envie de leur répondre chier, quoi. Oui, il y a une modification de la façon dont les travailleurs prennent le monde du travail, c'est-à-dire de façon cynique, et ils ont bien raison.
Retour aux questions.
Oui, je trouve le débat intéressant, mais justement, je trouve que cette journée à l'état où on est, parce que je n'ai pas l'intention de faire des conclusions. Cette journée montre des signes. On dit comment on voit l'avenir. Et je pense qu'on ne le voit pas. L'avenir, il est complètement à chercher. Il n'est pas écrit. On ne peut pas imaginer. Le problème, ce que je sens de positif dans cette journée, c'est que, par exemple, les cheminots, je vois, ils ont fait ça. Ils ont sorti le livre sur les cheminots, ce qu'ils font. Et de revenir sur le travail concret, qui est tellement... tellement masqué, parce qu'on ne connaît pas le travail, au fond, on ne le connaît jamais, on sait ce qu'on en dit. Quand Macron, par exemple, si on prend Macron, il vous dit vous pouvez du travail, vous traversez les Champs-Élysées et vous avez un emploi. J'ai employé deux mots, là. Le mot travail et le mot emploi. L'emploi, ce n'est pas le travail. C'est un endroit où je vais faire une tâche, je ne sais pas laquelle, et toucher un salaire ou quelque chose, en tout cas. Bon. Le travail, c'est un barman, c'est un vrai travail. Quand vous allez dans un bar, vous sentez très vite la différence entre un bar qui se tient, c'est-à-dire où vous êtes servi, où on fait attention, on cherche votre désir, donc on rend un service. Le barman rend un service, il est content de le faire. Quand il est dans une brasserie, il en bave certainement parce qu'il n'est pas assez payé, il a certainement des conditions d'horaire difficiles, mais il est heureux de faire son travail. Il rend un service. Quand on parle de l'emploi comme ça, le gars, il va trouver, effectivement, il va chercher les Champs-Élysées, il trouvera un emploi, il va trouver l'emploi précaire, mais il n'aura pas un vrai travail. C'est-à-dire qu'il va faire une tâche comme ça, qui, effectivement, est utile, mais ce n'est pas un travail. Il n'y a pas une qualification, il n'y a pas eu une formation, il n'y a pas eu un imaginaire du travail. Bon, voilà. Donc, et ça, j'ai pris cet exemple parce que c'est l'exemple qui est connu. Enfin, pour tout le monde ici, il a vu comment on avait traité l'affaire. Mais je crois que, d'une façon générale, aujourd'hui, le travail est pris... On parle d'emploi. En fait, on ne parle pas du travail. Et donc, je trouve intéressant que ce matin... d'une manière ou d'une autre, de façon très différente selon et cet après-midi, évidemment, selon les acteurs, enfin, je veux dire, les écrivains, voilà, les écrivains, les écrivaines, les acteurs sociaux, on en a parlé différemment, avec des approches différentes, mais on a essayé de tenter de voir, effectivement, qu'est-ce que peut l'écriture et la lecture apporter sur la connaissance du travail et le déploiement du travail. Parce qu'à partir du moment où on le découvre, Il amène des perspectives d'avenir, évidemment. Si vous savez exactement quel est votre travail, je pense que c'est ce que j'entends, enfin, en tout cas dans ce que dit Jacques, quand il rencontre et quand il découvre le travail des gens, évidemment, ça change des choses pour lui, qui va écrire, mais ça change aussi pour les gens qui parlent de leur travail, qui se rendent compte de leur travail. Et leur travail est toujours beaucoup plus riche que ce qu'on en dit, et beaucoup plus riche que ce qu'ils en pensent, même. Et on ne pense pas à la totalité de son travail. Quand on a supprimé les agents de quai dans les métros parisiens, c'est-à-dire sur chaque quai, il y avait un gars qui était là. Bon, effectivement, on a supprimé le poissonnier. On se dit poissonnier, il n'y a pas besoin, il y a une machine. Bon, d'accord. Sauf que c'est pas du tout ça, un contrôleur de métro. Il ne faisait pas que de poissonner. Il renseignait sur l'endroit à prendre. Il rendait un service. Il assurait la sécurité du quai. Le quai était toujours nettoyé, non pas par un agent de service d'autre entreprise, mais donc il était toujours propre, parce que le gars qui fait son quai, il l'entretient, parce qu'il n'a pas envie d'en baver le lendemain. S'il revient, il faut que ce soit propre. Bon. Donc on est. Toutes ces questions sont complètement effacées, c'est-à-dire que c'est la machine qui remplace. Bon. Et quand on a voulu, en 81, remettre des agents sur les quais, bonne idée, mais on l'a pensé en termes d'emploi. Donc l'agent n'avait rien à faire, il était sur le quai, ça ne marchait pas. On n'a pas pu tenir ces emplois. Vous avez vu qu'il n'y a maintenant plus personne sur les quais du métro. Donc tout ça pour ces petits exemples qui montrent que, c'est là-dessus que vraiment je veux conclure, c'est en revenant, enfin c'est en travaillant la question du travail, et il n'y a pas d'autre manière de travailler la question du travail qu'en écrivant et qu'en lisant, je ne vois pas comment on peut faire, et non pas en faisant, comme dit c'est Thierry qui disait ça, effectivement, il y a de nombreux essais sur le travail, mais les essais, c'est pour ceux qui font des essais et qui apportent des solutions. Mais là, c'est pas la question. La question, c'est que c'est aux salariés que ça appartient, cette affaire-là. Enfin, à nous tous, parce qu'on est tous plus ou moins salariés. C'est de revenir sur cette question et surtout de... Enfin, je sais pas, j'essaye de convaincre un peu sur cette nécessité de trouver les solutions, effectivement, dans le travail. Il n'y a pas de... Je vois pas trop... Et c'est pour ça que c'est... Enfin, les livres de Jacques, en tout cas, c'est... quelques poésies que j'ai lues de lui, et puis je connais encore plus les romans de Thierry, enfin, m'ont beaucoup apporté. Parce que ce point central, son premier travail, son premier livre, c'est ton premier livre central, qui est donc les PTT, il est extrêmement intéressant, parce que quand on lit, quand on voit l'architecture dans laquelle tu déploies ton livre au début, c'est locaux vides, parce que les centraux téléphoniques, ça s'est développé très vite dans les années 60, 70. Et tout d'un coup, ces locaux immenses ont été vidés. Il n'y avait plus rien, alors qu'avant, il y avait des machines, etc. Donc, tu revisites tout ça. Donc, on est dans le travail, mais en même temps, on est hors du travail. Ça ouvre le champ du travail, l'architecture, enfin, tout ce que porte le travail. Le travail, ce n'est pas uniquement mon petit boulot. Que je fais, c'est tout, j'allais dire une atmosphère, mais au sens, c'est un environnement, quoi. Enfin, c'est même pas, je cherche le mot qu'on pourrait employer, mais enfin, c'est un développement total, quoi. Quand on parle du travail, on ouvre sur toutes les pistes de la vie, l'amour, la joie, la tristesse, les sentiments, et voilà. Donc ça, c'est porteur, effectivement, d'avenir. Parce que si on me demande, moi, comme ça, demain, comment je vois l'avenir, je sais pas. Franchement,
On va demander à nos intervenants et intervenantes si jamais ils ont, par la littérature, justement, on ne peut pas dire des visions, mais une idée de ce que pourrait être le travail ou le visage du travail dans les décennies à venir, notamment avec toute cette automatisation dont vient de parler monsieur. Un peu comme ça, pour conclure, votre plus beau rêve et pire cauchemar en matière de travail.
C'est un peu indémerdable parce que. Il est évident qu'à un moment c'est pas tellement intéressant d'employer des robots pour fabriquer des produits que franchement si tout le monde est au chômage il n'y a plus que des robots pour les acheter quoi. D'un autre côté l'automatisation supprime des tâches qui étaient quand même un peu voilà, poinçonner des billets c'était un peu rêche comme voilà, ça consistait à être debout dans les courants d'air, à faire cliqui-cliqui. Effectivement, vous répondiez à quelques questions, mais je pense que Gainsbourg a bien exprimé quelle pouvait être la forme de détresse que ce genre de métier pouvait inspirer. D'un troisième côté, oui, il faut garder de l'humain dans la sphère de tous les jours, mais on va pas dire à quelqu'un, bon, on n'a plus besoin de poinçonneur, on n'a plus besoin de... Eh ben, on vous pose ici et vous faites l'humain. Ça, pas facile non plus. Et c'est de toute façon le problème, c'est même depuis le début, on voulait des robots pour avoir plus de loisirs, on voulait pas des robots pour avoir plus de chômage. Donc la solution, elle est politique. Il faut une taxe robot, il faut qu'il y ait une redistribution des gains obtenus par la robotisation qui soit mise au service du peuple et pas des actionnaires. Mais enfin, alors là, c'est tellement une grosse tarte à la crème, ce que je viens de dire. Je vais passer la parole à mon voisin.
À vous, Thierry.
Pour moi, c'est vraiment une question de langage, à la limite. Et le langage va définir, évidemment, l'avenir. Moi, mon pire cauchemar, ce serait évidemment que le langage reste aux mains, encore plus qu'il n'est encore actuellement, aux mains de ceux qui dirigent, c'est-à-dire de termes anglais qui viennent directement de ces HEC, etc., enfin de toute cette mouvance internationale et commerciale, donc, et qui donne elle-même ses propres. Voilà, on a parlé de N+1, de N+3, ce sont des mots qui sont passés dans le langage courant maintenant, mais ce sont des mots initialement quand même conçus à la base pour anonymiser, en quelque sorte, le travail. Et moi, j'essaie toujours de faire. Quand on parle du langage du travail, j'essaie toujours essayer de faire un pas de côté en me disant comment on peut le dire autrement. Une question très simple, c'est en ce moment, on parle souvent. Enfin, on a pas mal d'expressions comme ça qui reviennent. En ce moment, il y a une expression qui est à la mode. C'est dans notre ADN. Or, ça, on l'entend partout. Ah oui, ça, c'est vraiment dans notre ADN. Alors, les Restos du Cœur vont dire, ah oui, la générosité, c'est dans notre ADN. L'autre, ils vont dire, la force de vente, c'est dans notre ADN, dira le banquier. Et la question que je me pose à chaque fois, c'est de dire, mais attends, puisque tout le monde l'utilise, ça veut dire quoi? Et comment moi-même, à mon petit niveau, je peux ne pas utiliser le mot ADN, mais dire, est-ce que ce sont dans nos valeurs? Ah oui, mais alors attends. Si j'utilise le mot valeur, qu'est-ce que c'est qu'une valeur pour moi? Et donc, à partir de là, à partir de qu'on se pose des questions sur le langage, sur chaque mot qu'on doit utiliser, à chaque fois, on se pose des questions sur l'utilité, sur qui nous manipule. Et j'ai vraiment envie que chaque personne puisse se saisir du langage un peu en conscience, en quelque sorte.
Pour faire une forme de résistance minime parfois, mais quand même.
Voilà.
Et vous, Jacques, pour conclure.
Quelle responsabilité vous me donnez. Bon, simplement une chose. Dans les gens qu'on a rencontrés aux Voies navigables de France, il n'y a pas une personne qui, à un moment ou à un autre, ne parle du pays, du paysage et de soi dans le paysage. Et ça, c'est extraordinaire. Il ne parlait pas que des problèmes de la boîte, que des problèmes d'indices, que des problèmes de chef, je ne sais pas quoi. Mais du pays, du paysage et de soi dans le paysage. Ça, c'est bien, non ?
Merci Catherine Dufour, Thierry Bestingel, Jacques Jouet pour cette rencontre, la littérature au travail.
Merci à toi.